sortie de boîte, Cédric Adrovert.
Mon invité est un fils à papa. Oui, c'est lui-même qui se décrit de la sorte. Étonnant quand on sait qu'il est théoriquement, je dis bien théoriquement, à l'âge de la retraite. Mais c'est bien le cas, il est entré dans l'entreprise le jour de sa naissance. Son père l'a dirigé avant lui, peut-être son fils la dirigera un jour. L'entreprise, c'est Dixie, au Locle. Et c'est à la Chaux-de-Fonds que nous avions rendez-vous dans un café. On s'est finalement retrouvé devant un établissement fermé. Qu'à cela ne tienne, je lui propose une bière dans un pub irlandais voisin, il accepte sans hésiter. Deep Purple en fond sonore, pour lui ce sera une Guinness. Veston carrelé, à l'écoute, il prend des notes, notre invité est structuré. Il s'exprime très ouvertement et dégage une impression de calme. Qui va piano, va sano, va lontano, c'est l'une de ses devises. On a 25 minutes devant nous pour voir s'il nous en a réservé d'autres. Bonsoir Pierre Castella.
Bien le bonsoir.
Vous dirigez le groupe Dixie qui comporte plusieurs sociétés actives dans la fabrication d'outils de précision, la réfrigération, le médical, la défense, le décolletage. On y reviendra, hein, la partie décolletage qui d'ailleurs est en crise. Au début du mois, une vingtaine de licenciements ont été évoqués dans la presse. On reviendra sur tout ça. Avant ça, on va parler un petit peu de vous, Pierre Castella. Comment est-ce qu'on vit le fait d'être à 65 ans, un fils à papa? Comment c'est possible?
Ça dépend pas de l'âge. Ça dépend de la structure de la famille. Mon père, qui a racheté la famille à l'entreprise, donc à l'âge de 39 ans, maintenant, il vit encore, s'intéresse fortement à la société, et chaque fois que je peux, eh bien je lui rends des comptes. Il s'intéresse aux chiffres jusqu'à l'année passée, c'est encore lui qui faisait les déclarations d'impôts.
Ah oui, donc il est très actif encore. À 95 ans, cette structure familiale, ce côté de père en fils, quels avantages ça a, quels inconvénients aussi?
Alors les avantages, c'est que nous sommes une véritable équipe. Une équipe, et une équipe, vous savez très bien, on peut parfois se pardonner davantage que quand on est simplement employé. Ça, c'est pour les contacts entre les générations. Et en ce qui concerne l'entreprise, une entreprise familiale est une entreprise qui travaille de manière tout à fait différente d'une entreprise qui est cotée en bourse, qui doit sortir des résultats tous les trimestres, qui doit sortir régulièrement des performances. Quand on est une entreprise familiale, on décide beaucoup plus à moyen et long terme. Si ce n'est pas très rose aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, ça sera mieux.
Il y a moins de pression.
Je pense qu'il y a moins de pression de l'extérieur, oui.
Ça a toujours été une évidence pour vous, reprendre l'entreprise un jour, la diriger un jour?
Non, pas du tout.
Non.
C'était pas du tout. J'ai fait des études classiques. Ensuite, j'ai dû faire une année de CMS à l'École Polytechnique à Lausanne pour me retremper dans toutes les matières techniques. Et ensuite, je suis devenu ingénieur électricien à l'École Polytechnique. J'aurais peut-être mieux fait de faire la mécanique, puisque j'entrais dans une entreprise qui faisait de la mécanique de précision, mais ça fait rien, ça m'a permis de connaître les différents aspects de la technique. On ne pouvait plus me raconter n'importe quoi à la sortie. Et la partie commerciale, je l'ai appris sur le tas.
Vous avez 65 ans, vous allez continuer quelques années encore. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien?
Alors, ce qui me motive au quotidien, c'est le fait de remplir un rôle vis-à-vis de la région, vis-à-vis des familles qui habitent dans le canton de Neuchâtel, dans le haut du canton, de l'autre côté de la frontière. Les défis, il y a des défis extraordinaires auxquels il faut faire face, et c'est des défis qui changent pratiquement chaque semaine. On ne s'ennuie pas. Alors là, si le matin, je ne sais pas dans quel état je vais rentrer le soir et quels sont les problèmes qui vont venir vers moi. C'est en tout cas pas de la routine et ça, c'est extraordinaire.
Il m'avait dit en préparant l'émission, je mène une vie où je dois m'adapter constamment. Pourtant, on peut imaginer qu'au bout d'un moment, certaines personnes auraient envie d'un petit peu se reposer, se détendre. Voilà, j'ai fini de travailler. Vous voyez dans 20 ans encore remplir les déclarations d'impôts?
Pourquoi pas? S'il y a personne d'autre qui est plus capable que moi de remplir les déclarations, parce que le but c'est toujours d'essayer de s'entourer des meilleurs. Et c'est pas à nous d'être les meilleurs, c'est nous devons choisir les meilleurs.
L'entreprise a plus d'un siècle, elle a été fondée en 1904. C'est difficile de résumer comme ça à la radio, mais si on devait sortir un ou deux moments clés de son histoire, ce serait quoi selon vous?
Alors, Dixie est née un peu par hasard. Au départ, c'était une entreprise d'horlogerie qui s'appelait Le Phare, qui existe encore maintenant, bon, on n'en entend plus beaucoup parler, mais cette entreprise Le Phare, qui fabriquait des mouvements avec complications, ne trouvait pas sur le marché des machines suffisamment précises pour usiner ses propres pièces. Donc, comme on faisait à l'époque, eh bien, si on ne trouve pas sur le marché, eh bien, on les fait soi-même. La verticalisation, on la trouvait partout. Et Dixir est né, c'était une entreprise, un petit atelier de mécanique qui a démarré avec une vingtaine de personnes, avec à sa tête William Pernoud, qui a créé des petites machines qui sont devenues de grandes machines après la guerre en 1945. Et ces grandes machines sont devenues ensuite des centres d'usinage qui ont pesé même jusqu'à 60 tonnes. Mais c'est parti avec des petites machines pour l'horlogerie. On faisait des tours, on faisait des fraiseuses, on faisait des meuleuses. Et vraiment, c'était... Chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, hop, on faisait donc la machine. Aujourd'hui, on regarde, on visite les salons, on regarde ce qui existe et puis on achète ce qu'il y a sur le marché. À l'époque, quand on avait besoin de quelque chose, on le fabriquait.
C'était le besoin qui créait le produit, en fait.
Tout à fait.
Dixie et le Loc, c'est donc une vieille histoire. Vous avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs, quand vous évoquiez vos motivations du lien avec la région. Entre l'entreprise et sa région, comment vous le décririez, ce lien ? Il est fort, il est important, il est essentiel ?
Ah, il est essentiel. Parce que quand vous avez des collaborateurs, quand vous avez des amis sur place, vous connaissez les gens. Quand vous connaissez les gens, vous avez une relation tout à fait différente avec votre région. Et je suis né au Locle, j'habite au Locle, je travaille au Locle, et le Locle est une petite ville. On se dit bonjour, c'est vraiment sympa. Et même si on ne trouve pas toujours sur place les collaborateurs, les compétences dont on a besoin, eh bien, les gens qui viennent, ils y restent et nous sommes une entreprise qui avons heureusement, des gens extrêmement fidèles. Comme par exemple, ici, au début de l'année, j'ai fait une sortie, enfin, début de l'année, au mois de juin, avec tous ceux qui avaient 40 ans d'usine. Nous avons invité les conjoints et les conjointes et nous sommes partis, une équipe de 10, à Saint-Pétersbourg, pour le soleil de minuit pendant 4 jours et c'était extrêmement sympathique.
Ce côté familial qu'on retrouve du coup aussi dans ce genre d'activité, dans la fidélité. Quand on va sur votre site dixie.ch, on a 5 sociétés qui apparaissent, Dixie Polytool, Dixie Cylindre, Dixie Microtechnique, Marxa, Dixie Médical, à ça s'ajoute encore Dixie Service qui gère l'administratif, l'informatique. Pourquoi une telle diversification en fait ?
La diversification s'est presque faite toute seule. Au départ, Dixie est parti avec des machines pour l'horlogerie. Et ensuite, le patron de mon père, Georges Pernoud, voulait sortir de ces cycles horlogers. Parce qu'on parle des cycles horlogers, les hauts et les bas, mais ça existe depuis la nuit des temps, depuis que les entreprises horlogères existent. Et lui voulait sortir de ça. Et d'autant plus que pour fabriquer les montres, on avait partagé le travail et le travail était surtout donné aux femmes. Et Georges Pernoud voulait sortir une entreprise, voulait créer une entreprise, comme il disait, pour les bocs, pour les hommes.
Ah oui, les bocs, d'accord.
Oui, ben c'est, oui, oui. On est proche de la Suisse allemande ici.
Absolument. Hein,
et il a créé une entreprise qui fabriquait de la grosse mécanique. Il ne savait pas exactement encore ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait réparer des chemins, des wagons de chemin de fer, faire des nouvelles machines. Là, il a monté une entreprise qui a été une nouvelle usine qui a été inaugurée en 1945. Et en 1947 est sorti le premier prototype de la laiseuse pointeuse horizontale avec table tournante incorporée. C'est une machine qui était beaucoup plus grande que les petites machines qui avaient été fabriquées depuis le début du siècle jusque-là. Et c'est une machine qui est maintenant à la base des centres d'usinage.
C'est intéressant ce côté les cycles horlogers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de sous-traitants qui travaillent essentiellement avec l'horlogerie, qui cherchent à se diversifier pour justement limiter les risques. Vous, à la base, la structure, les sociétés, vous êtes déjà diversifiés. Ça vous permet de résister mieux à la crise, vous le sentez ?
Ah oui, absolument. On ne fait jamais des résultats extraordinaires, mais on arrive toujours à sortir la tête de l'eau quand vous êtes diversifié au niveau des produits, au niveau des secteurs clients et géographiquement, vous avez toujours des régions ou des produits ou des secteurs qui marchent mieux que d'autres. Et en jouant sur cette diversification, on arrive pour finir à avoir un résultat consolidé vraiment de qualité. C'est la même chose si vous investissez à la bourse, vous investissez pas seulement dans une seule action. Pour essayer donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, vous achetez des actions, des obligations d'origine différente, dans des secteurs différents. Et c'est ça, cette diversification qui fait qu'en définitive, vous arrivez à une performance sur la durée.
Avec une certaine stabilité. On va rentrer dans le bateau Amiral, la société, on va dire société principale, en tout cas en termes d'emploi et de chiffre d'affaires. Joël Picromain est venu vous voir à Dixie Polytool, spécialisé en micro-usinage. Là-bas, il y a de très anciennes machines qui en côtoient des ultra-modernes.
Sortie de boîte.
Alors, si vous regardez ici cette meuleuse, vous voyez, c'est encore la marque Hispano-Suiza. Hispano-Suiza, il faisait des voitures donc au début du XXe siècle, mais il faisait aussi des machines. Alors les anciennes machines que l'on utilise encore et qui sont encore en bon état, eh bien elles côtoient ces machines modernes qui sont mues par des programmes automatiques. Nous avons donc énormément de machines CNC. Vous avez ici par exemple même des robots de chargement. Ici, on prend les barres en métal dur, et on les met directement à la longueur, on les prépare pour la prochaine opération qui sera le taillage. Et toute cette mise de longueur, préparation pour le taillage, se fait ici sur une meuleuse robotisée.
Tous les aspects les plus contraignants dans la précision qui peuvent être réalisés par des machines, on remplace l'homme par une machine ?
On essaye de remplacer toutes les opérations rébarbatives et répétitives qui ne sont pas intéressantes pour l'homme parce que les opérations les plus délicates et pour les petites séries, celles-là sont encore faites à la main. Mais si vous avez aussi des opérations délicates mais en grande série, ben de plus en plus on les automatise, c'est juste. Nous sommes organisés de telle manière de pouvoir satisfaire, de pouvoir produire en grande série, mais de pouvoir aussi produire à l'unité. C'est avec des gens différents, avec des machines différentes. C'est clair que c'est plus robotisé à ce moment-là. C'est des machines qui sont chargées manuellement. Mais très rapidement, le client peut avoir, en l'espace de quelques jours, il peut avoir sa pièce.
Là, on arrive dans une autre pièce, un peu plus silencieuse. Bonjour.
Alors ici, nous faisons des fraises-scies. C'est des fraises circulaires qui sont utilisées pour usiner des fentes. Alors, vous avez des grandes fraises qui ont un rayon d'environ 5-6 cm, 70e. Et puis ici, vous avez une toute petite fraise-scie qui, elle, a un diamètre total d'environ 2 mm. Alors, on fait toutes sortes de fraises-scies avec des dimensions de dents différentes, des quantités de dents différentes, des épaisseurs de disques différents. Et c'est des fraises qui sont utilisées, par exemple, pour usiner une pièce telle que celle-là. Vous voyez, donc la fente à l'intérieur, on peut seulement l'usiner donc avec une fraise-scie. Donc on fait tourner la fraise et la pièce est fraisée par le centre, exactement. Nous faisons surtout les fraises et les mèches. C'est les deux principales familles que nous usinons ici à Dixie Polytool. Mais là, donc, on a des toutes petites fraises. Et les mèches, c'est ce que vous utilisez pour faire un trou dans du plein. Et les plus petites mèches que nous avons, elles sont tellement petites que nous pouvons faire un trou dans un cheveu.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de marin avec Pierre Castella, directeur de Dixie, une entreprise qui sait faire des trous dans les cheveux, du coup. Dans l'entreprise, plus sérieusement, on parlait d'automatisation tout à l'heure dans le reportage. Certains disent de plus en plus nos emplois sont menacés par l'automatisation, par des machines dans ces secteurs-là. Vous partagez cette vision à long terme ou vous pensez comme d'autres que ce sont simplement d'autres emplois qui vont les remplacer ?
Les emplois, c'était dit dans le reportage, les emplois les plus simples et les plus rébarbatifs sont maintenant automatisés. Également pour pouvoir assurer la répétition de la qualité, on automatise de plus en plus la production. Vous le voyez très bien aussi sur les chaînes de voitures, avec les robots de soudage par exemple.
Mais c'est imaginable qu'un jour on n'ait plus besoin de l'homme ?
En production, pour produire des pièces, c'est possible que, en tout cas, on réduise fortement la main-d'œuvre. Par contre, si vous voulez automatiser donc une opération, vous êtes obligé d'avoir des ingénieurs, vous êtes obligé d'avoir des techniciens, vous êtes obligé d'avoir des usineurs qui fabriquent les pièces, vous êtes obligé d'avoir des électroniciens, des électriciens pour fabriquer toutes ces machines qui elles vont fabriquer des pièces. Donc c'est simplement le genre de travail qui va évoluer.
Vers des métiers plus qualifiés. C'était donc un petit tour à Dixie Polytool. Il y a une entreprise aussi qui a fait parler, une des sociétés qui a fait parler d'elle au début du mois. On a pu lire dans la presse qu'une vingtaine de collaborateurs de Dixie Cylindre seraient licenciés d'ici à la fin de l'année. Une période de consultation a été ouverte avec le syndicat Unial. Elle se terminait ce lundi. Aujourd'hui, Pierre Castella, quelle est la situation ?
Alors, nous devons toujours nous adapter au marché, nous devons nous adapter aux chiffres d'affaires, aux entrées de commandes, et nous avons en tout 4 divisions qui occupent en tout 400 personnes, 300 en Suisse et 100 à l'étranger. Et notre plus petite division, qui est la division Dixie Cylindre, qui fabrique en sous-traitance des petites pièces, notamment pour l'horlogerie, pour le médical, pour le secteur automobile, cette division-là a rencontré une forte, forte baisse dans les commandes. Nous avions si on regarde nos trois plus grands clients, nous avions un client qui commandait pour 800 000 francs l'année passée. Cette année, il a seulement commandé pour 80 000 francs. Donc, si vous avez moins d'entrées, vous avez moins de recettes. En famille, c'est la même chose. Si vous avez moins de salaire, eh bien, vous mangez de manière différente, vous dépensez l'argent de manière différente, vous devez économiser. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, cette petite division, 35 collaborateurs sur un ensemble de 400 collaborateurs, dans cette division, nous avons décidé de supprimer 20 postes de travail. Avec suite aux réflexions, suite aux discussions, pour nous donner le maximum de chances de rebondir dans le futur, une fois que les commandes repartiront, nous avons en définitive non pas réduit 20 postes, mais actuellement nous sommes à une réduction d'une quinzaine de postes et nous avons encore des collaborateurs à qui nous avons offert des places en interne qui nous doivent des réponses. Et si les réponses sont positives, eh bien ces postes vont être remplacés, non pas à Dixie Cylindre, mais dans d'autres sociétés du groupe.
C'est presque la moitié de l'effectif. Quel avenir du coup pour la société ? Vous pouvez rester optimiste ?
Je reste modérément optimiste. Parce qu'on dépend toujours de la concurrence. Et dans le domaine de la sous-traitance, nous avons des concurrents dans le monde entier. Et quand vous fabriquez des petites pièces, vous pouvez très bien fabriquer ces petites pièces dans le sud-est asiatique et puis envoyer une petite boîte avec ces pièces chez le client. Nous avons énormément de concurrents. Dans la sous-traitance, il y a beaucoup plus de concurrence que dans les entreprises qui ont des produits propres, où ils peuvent développer de nouveaux produits, ils peuvent s'adapter à la demande du client, ils peuvent faire de l'innovation. Et dans ces domaines-là, où la Suisse est très très bonne, notamment dans les niches, eh bien la concurrence est nettement moins grande que quand on fait uniquement de la sous-traitance. On vend des heures. On vend des heures de production, on vend des heures de tournage, on vend des heures de fraisage, on vend des heures de meulage. Mais dans le sud-est asiatique, ils vendent aussi les mêmes heures. Vous n'avez qu'à leur envoyer les bons dessins, et puis si vous trouvez un bon fournisseur, il pourra très bien vous faire les pièces à pratiquement dans les mêmes qualités.
Ça veut dire que la Suisse, par le coût de la main-d'œuvre, le coût de la vie, ne peut plus être concurrentielle à l'étranger, selon vous, aujourd'hui, sur ce domaine-là ?
Dans ces domaines-là, les machines, même, on dit que le coût, le taux horaire dépend surtout du prix de la machine, mais n'oubliez pas qu'en Suisse, nous achetons les machines plus chères que les concurrents étrangers. Les fabricants de machines, les fabricants de matières, quand ils savent que leurs produits sont destinés au marché suisse, ils montent les prix. Alors ça a une influence directe sur le taux horaire, et surtout au niveau sous-traitance. Donc si on veut pouvoir être compétitif en Suisse, on est obligé d'offrir mieux, d'offrir une meilleure qualité, une meilleure fiabilité, de meilleures performances. Plus innovant, mais en sous-traitance, c'est extrêmement difficile d'être innovant.
Et l'innovation dans cette mauvaise conjoncture, elle reste possible ? C'est des investissements, c'est du temps.
L'innovation, elle est indispensable. Même en période de basse conjoncture, vous devez continuer de prospecter la clientèle, même s'ils ne commandent rien, mais au moins vous faire connaître. Vous devez continuer de former vos gens et vous devez continuer d'innover. De telle manière qu'une fois que la conjoncture repartira, vous êtes là avec des produits neufs qui répondent aux besoins du client.
L'innovation et la qualité, c'est aussi un gros enjeu pour l'horlogerie. Qui dit qualité dit formation, qui dit formation dit étude. C'est l'heure de notre chronique horlogère. Marie-Lise est retournée sur les bancs d'école.
Pile à l'heure.
Ce n'est pas Charlemagne, mais LVMH qui a inventé une nouvelle école. Le groupe français est présent dans le domaine du luxe. Il compte 70 maisons dans 6 secteurs d'activité, dont les montres et la joaillerie. TAG Heuer, Hublot, Zénith et Bulgarie notamment font partie de ce groupe. 2 marques installées dans les montagnes neuchâteloises se sont associées pour former des apprentis. TAG Heuer et Zénith. L'école d'horlogerie LVMH a été inaugurée vendredi dernier à la Chaux-de-Fonds dans les locaux de TAG Heuer. 12 élèves suivent l'enseignement classique du CFC au CIFOM au Locle. En entreprise, ils apprennent le métier. Alors ont-ils plus de chances de décrocher un emploi au sein du groupe LVMH une fois leur diplôme en poche? Réponse de Jean-Claude Bivert, le président de la division montre du groupe.
On sera toujours bienveillant pour ceux qui ont fait nos propres écoles, puisque c'est nous qui leur ont enseigné, donc on a intérêt à les garder, mais ce n'est pas une nécessité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils auront plus de facilité d'aller dans une entreprise concurrente? Oui, ils auront certainement une certaine facilité, parce que chez nous, on leur enseigne également une ouverture d'esprit, on va leur faire connaître d'autres métiers. On va faire des échanges entre d'autres marques horlogères. Et puis, on va aussi leur amener de la connaissance dans l'art. On va les amener à la Fondation Vuitton. On va même leur offrir des cours de langue. Donc, si vous voulez, on va être un peu plus large que juste leur apprendre le métier. Parce qu'un métier se compose aussi d'une ouverture d'esprit et d'une compréhension d'autres métiers. Et tout cela va faire que ces jeunes vont avoir probablement un avantage sur d'autres.
Si le contexte actuel est plutôt morose dans l'horlogerie, en Suisse, des places de travail sont à pourvoir à l'étranger. Les services après-vente des marques dans plusieurs pays ont besoin d'horlogers. Peut-être une belle opportunité pour les élèves quand ils auront fini leur cursus.
Mais oui, l'école est finie.
Pile à l'heure.
Comme l'école, sortie de boîte, c'est presque fini aussi. Ce soir, notre invité est le directeur de Dixie, Pierre Castella. Une dernière question, projetons-nous peut-être pour la dernière question sur l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir du groupe Dixie, selon vous, c'est quoi la priorité?
La priorité, c'est de rester dans la ligne de notre force, qui est la mécanique de précision. C'est clair qu'on doit déborder un peu à gauche, un peu à droite, mais nous devons garder cette ligne mécanique de précision. Nous devons surtout essayer de rester actif sur les marchés les plus intéressants. Nous ne devons essayer de pas trop sortir des niches dans lesquelles nous sommes, parce que si vous sortez des niches et vous allez dans la très grande production, à ce moment-là, vous avez comme concurrent de très grands groupes étrangers. Et c'est pas du tout dans l'intérêt de la Suisse. La Suisse compte énormément de petites et moyennes entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises familiales. Et pour que ces petites et moyennes entreprises puissent tourner, il faut absolument qu'on soit bon dans des niches. Les grandes séries, ce n'est pas pour nous.
En tout cas, merci d'avoir été notre invité ce soir. Ce sera le mot de la fin. Très bonne soirée à vous. Et vous retrouvez cet entretien dans son intégralité ainsi que les chroniques de l'émission sur notre site internet d'ici une petite demi-heure. La semaine prochaine, Sortie de boîte sera en mode automatique. On recevra Jürg Neffer, directeur de Siposa, une société de haute rive spécialisée dans l'automation. Excellente soirée à toutes et à tous.
Sortie de boîte.